VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique au Bénin. L'ancien président béninois en exil, Tonma Boni Yayi, a quitté mercredi soir Cotonou après une visite éclair sans avoir rencontré le chef de l'État, Patrice Talon. Boni Yayi était arrivé mercredi après-midi accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, impliquée dans la résolution de la crise au Bénin. Mais cette délégation s'est finalement rendue sans lui à la présidence pour échanger avec Patrice Talon. La rencontre entre Tonma Boni Yayi et le président Talon avait pourtant été annoncée officiellement par le gouvernement béninois et confirmée par des proches de l'opposant. Plus de détails sur la visite de Yayi Boni à Cotonou avec Ginette Fleur à Adandé, notre correspondante sur place.
C'est à bord d'un vol de Nigeria Air Force que Boni Yayi a atterri à l'aéroport de Cotonou. C'est une foule de sympathisants et de membres des forces coréennes pour un Bénin émergent qui ont accueilli l'ancien président à l'aéroport. Il était accompagné d'une délégation de la CEDEAO qui s'est dépêchée de prendre la direction du palais présidentiel rencontrer le président Patrice Talon. Yayi Boni a simplement boycotté la rencontre avec son successeur pour se rendre chez Nicéphore Soglo pour un tête-à-tête avant de prendre la direction du domicile de l'une des victimes des violences post-électorales. Selon Nourenia Tchari, membre des forces coréennes pour un Bénin émergent, la rencontre Talon-Yayi n'a jamais été inscrite dans le programme de Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Maintenant, au Burkina Faso, 18 djihadistes ont été tués. Un gendarme a perdu la vie mercredi lors d'une riposte à une attaque contre la gendarmerie d'Arbinda dans la province du Soum, dans le nord du pays. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major de la gendarmerie burkinabé. L'affrontement a eu lieu alors que l'armée avait annoncé avoir neutralisé 32 terroristes le week-end dernier. Pour tenter de faire face à ces attaques récurrentes, le président burkinabé Roquemont Christian Kabore a appelé début novembre à la mobilisation générale contre le terrorisme et annoncé le recrutement de volontaires pour la défense des zones sous menace. En République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila a largement dépassé ses plafonds de dépenses autorisées lors de sa dernière année au pouvoir. D'après la Cour des comptes, M. Kabila a consommé 5 fois plus que les fonds alloués par la loi en 2018. Les détails avec Eric Manirakiza.
La Cour des comptes dénonce notamment le paiement des dépenses de personnel, l'achat des fournitures et petits matériels, pièces de rechange pour l'équipement et location immobilière. Selon cette Cour, la plupart de ces dépenses non prévues au budget sont des dépenses courantes qui ne participent pas aux efforts de développement du pays. Ainsi, l'ex-président Kabila a dépensé plus de 61 millions de dollars pour des prévisions de dépenses plafonnées à 12 millions et demi de dollars en 2018, année de l'élection présidentielle du 30 décembre. Les recettes ont connu un taux de réalisation de 88%, ce qui n'est pas une performance, regrette la Cour des comptes, en marge de l'adoption du budget 2020. Le Parlement doit adopter d'ici la fin de l'année un projet de budget d'un montant annoncé d'environ 10 milliards de dollars, le double de celui de l'année dernière. Kinshasa n'a pas les moyens de financer ses hôpitaux ni ses routes. Le FMI, Fonds monétaire international, s'était récemment déclaré prêt à consentir rapidement des facilités de crédit pour sortir la RDC de sa pauvreté généralisée, ajoutant qu'il est urgent d'accroître les recettes et de maîtriser et de rationaliser les dépenses afin de consolider la stabilité macroéconomique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Relations États-Unis-Cameroun, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nage, a déclaré cette semaine qu'il n'y aura pas de victoire militaire dans la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Monsieur Nage a relativisé le succès du grand dialogue national tenu début octobre à Yaoundé, qui a été boycotté par les séparatistes anglophones. Pour une réaction, Idriss Fall a joint le professeur Abuya Ndong Manassé, directeur du GREDPA à l'université de Douala au Cameroun.
La perspective dessinée par M. Tshibonage rentre dans l'avis largement partagé par la majorité des Camerounais. Ce sont leurs frères, ce sont leurs compatriotes qui ont pris les armes contre l'État du Cameroun et dont une guerre qui pourrait amener beaucoup plus de morts, de tueries, n'était pas rentable pour le Cameroun. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'un grand dialogue a été terminé. Il y a des lieux identifiés comme étant des repères de ces sécessionnistes qui viennent attaquer les villes de Bamenda, de Koumba, de Boya, où l'armée pouvait régulièrement arroser des bombes de grenades. Mais le chef de l'État du Cameroun n'a pas franchi ce cap. Cela veut dire à profusion que cette crise ne peut pas se résoudre par la voie militaire uniquement, mais nécessite d'autres voies complémentaires.
Les séparatistes anglophones n'étaient pas conviés à ce dialogue.
Les séparatistes ne sont pas facilement identifiables. Je pense que les organisateurs de ce grand dialogue, en l'occurrence le Premier ministre, avaient effectué des consultations. Ils avaient fait des descentes sur le terrain où ils suscitaient que les uns et les autres puissent venir à ce dialogue. Et donc, ce sont ceux qui sont portés volontaires qui ont assisté à ce dialogue. Les autres n'ont pas voulu assister à ce dialogue parce que c'était un dialogue ouvert à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui pouvaient apporter de leur contribution à solutionner cette crise, puisque l'essentiel du grand dialogue était axé sur la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest.
Comment accorder plus d'autonomie à ces deux régions anglophones?
Bien entendu, à la sortie du grand dialogue national, il y a eu cette suggestion des commissaires qui indiquait qu'il fallait un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le chef de l'État camerounais a pris acte. Il a réitéré solennellement lors du sommet de la paix qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, en indiquant que le principe de ce statut spécial va être implémenté. Naturellement, ça peut être envisagé soit par voie de décret, soit par voie législative à travers les députés à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on fait de la vie des officiels camerounais, de leur propre bouche, ça sera un statut spécial dans le cadre du respect de l'intégrité physique du territoire. Ça veut dire que l'option fédéraliste est écartée, encore moins l'option sécessionniste, mais ce sera un statut spécial, notamment les problèmes liés à l'éducation, les problèmes liés à la justice.
Le professeur Aboya Ndong Manassé, directeur du GREDPA à l'université de Douala au Cameroun. Corne de l'Afrique, en Éthiopie, les premiers résultats du référendum d'autodétermination des Sidama, qui s'est tenu mercredi dans le sud de l'Éthiopie, étaient affichés depuis ce matin. Mais la commission électorale éthiopienne a indiqué que les résultats préliminaires du scrutin ne seraient communiqués que tard ce jeudi ou demain vendredi. Les électeurs étaient appelés à se prononcer sur la création d'une région autonome Sidama, un scrutin à valeur de test pour la stabilité de l'Éthiopie qui connaît une forte recrudescence des violences intercommunautaires et des velléités autonomistes depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre réformateur Abiy Ahmed. Actualité aux États-Unis pour terminer. Modérés et progressistes se sont divisés lors du débat à Atlanta en Géorgie mercredi soir entre les candidats à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. Le jeune maire Peter Buttigieg en pleine ascension et le favori Joe Biden critiquant le programme nettement plus à gauche des sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Le point avec Jean-Roger Bion.
Après un moment d'unité contre Donald Trump menacé par une procédure de destitution, les échanges ont rapidement opposé ces deux camps, le Benjamin à 37 ans de la primaire Pete Buttigieg se présentant en rassembleur. Puis il a taclé Elizabeth Warren, deuxième dans les sondages, en évoquant le débat sur la réforme de la santé qui divise le parti. Son projet est d'un passage vers un système de couverture universelle après 3 ans de mandat, tout comme la conversion immédiate proposée par le sénateur indépendant Bernie Sanders, ne sont pas la bonne approche pour rassembler les Américains. L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a martelé qu'en ce moment, la vaste majorité des démocrates ne soutient pas une telle réforme. La sénatrice Warren, 70 ans, a défendu ses propositions progressistes en affirmant que la meilleure façon de rassembler était de construire une Amérique qui fonctionne pour tous, pas juste pour les riches. 17 candidats sont toujours en liste. Le trio de tête s'est consolidé ces derniers mois avec Joe Biden, suivi des deux progressistes, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Mais Pete Buttigieg connaît depuis fin octobre une ascension fulgurante dans les sondages de l'Iowa, un état clé puisqu'il votera le 1er, le 3 février et plus récemment dans le New Hampshire qui suivra juste après le 11 février.
Merci de votre attention.